Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 10 février. Ben, c'est votre émission hein, qui vous parle de voyage, de nature, de science à chaque semaine. Et je suis en compagnie de André-Étienne.
Bonjour Michel, et, bonjour Marie.
Et de Marie Lalonde.
Bonjour.
Est-ce que vous aimez l'hiver?
Oh oui.
Petite hésitation, j'ai senti. Vous aimez l'hiver en dentiste? On est servi. Et voilà. André.
Oui.
De quoi tu me parles aujourd'hui?
Alors, j'ai deux articles qui sont tous les deux tirés de la revue Québec Science. L'un qui parle de l'art de la manipulation.
Oh!
Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ça va être la surprise. Et l'autre, c'est l'épinette qui contre-attaque.
Oh!
Vous savez qu'elle a des ennemis jurés, mais ça a l'air de finir.
Ça semble le titre d'un film d'horreur, L'épinette contre-attaque.
Absolument.
Une musique de fond. Marie, de
alors
ton
moi,
côté.
Je vous présente quelques extraits d'un dossier de Alexandre Vignon sur l'Alzheimer et la musique.
Ah oui.
Les bienfaits de la musique. Et dans un second temps, je vous parle de la place des ordinateurs dans notre assiette.
Oh. On savait qu'il était partout.
Si pour la cuisine,
on
pour
savait
moi,
qu'il était partout, mais je ne savais pas qu'il était rendu dans notre assiette. De mon côté, ben, je vais vous parler de l'insomnie, les insomniaques. Qu'est-ce que les insomniaques peuvent faire pour améliorer leur sort, entre autres choses. Et c'est un médecin qui nous en parle. Puis, chez des animaux qui sont en difficulté, hein, même en voie de disparition. Je vais vous parler, entre autres choses, du rhinocéros et du tigre. Alors, restez avec nous, hein, vous allez en savoir plus. Alors, André?
Alors, je commence donc. C'est un article extrait de la revue Québec Science et c'est un numéro un peu spécial qui parle des découvertes de l'année, le numéro de janvier-février 2015. Alors, il est intitulé « L'art de la manipulation » et il est écrit par Jean-Pierre Rogel. Vous croyez peut-être que je vais vous parler de la manipulation des êtres humains.
On n'en a aucune idée.
Vous n'en avez aucune idée, moi, je vais vous en donner une. Je vais vous dire tout de suite que d'abord, l'article est présenté avec une photo que je vais vous décrire. Donc, et c'est une photo d'un entomologiste qui s'appelle Jacques Brodeur et qui a fait la une de National Geographic en novembre 2014. Mmh.
C'est
pas rien. Hein? 14 millions d'exemplaires, c'est pas rien. Alors, sur la photo, on voit donc une belle coccinelle rouge à pois noirs avec, entre les pattes, un gros cocon qui, évidemment, est accroché entre ses pattes et ne lui rend pas la vie facile. Et ceci, c'est pour parler du parasitisme dans la vie. C'est considéré comme une dimension fondamentale du vivant. Il y a un nombre considérable d'espèces qui pratiquent le parasitisme. Ce sont essentiellement quand même des virus, des bactéries, des insectes qui ne peuvent vivre, ou se reproduire d'ailleurs, qu'à l'intérieur d'organismes autres ou qui vivent en symbiose avec eux. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler le phénomène des coucous. Les coucous, ils pondent leurs œufs et puis ils vont les déposer dans les nids des pies. Et en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils surveillent comment les pies s'occupent de leurs œufs. Et si jamais les pies en question ne s'occupent pas bien d'eux, ils les tuent.
Oh.
Rien que ça. Mais quand ils n'en prennent pas soin, ils les tuent. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux exemples de manipulation qui sont assez impressionnants. D'abord, c'est l'histoire de la guêpe qui a pondu un œuf dans l'abdomen de la coccinelle. Quand l'œuf a éclos, la larve s'est développée, d'abord à l'intérieur, puis à un moment donné, elle grossit et elle s'extirpe de l'abdomen, de la coccinelle, par un petit trou. Ensuite, elle continue son travail, elle tisse son cocon entre les pattes de la coccinelle. La phase suivante, c'est encore plus extraordinaire. Donc, à force, la coccinelle, elle est paralysée par le cocon, elle a les pattes engluées, elle est prisonnière, mais elle est toujours vivante. Elle bouge un peu, elle tressaute. Et ce qui est important, c'est que comme elle bouge avec ses couleurs vives, ça éloigne les oiseaux et les insectes prédateurs. Mais la larve, elle est bien protégée, cachée sous son garde-manger. Alors, elle libérera d'abord, d'ailleurs, la coccinelle quand elle n'en aura plus besoin, qu'elle sera arrivée à maturité. C'est ce qu'on appelle une sorte de manipulation mafieuse, une forme de racket de la protection.
Ah oui.
Puisqu'elle a une proposition à faire à la guêpe, elle lui dit, soit tu as la vie sauve, mais il faut que tu collabores.
Ah.
Bon, donc ça c'est le cas de la coccinelle. Elle ne meurt pas quand même, hein. Une fois qu'elle est libérée, elle arrive même encore à se reproduire. Et c'est intéressant parce que souvent, les insectes parasitoïdes tuent leur autre. Et donc, voilà, ça, c'est la coccinelle avec la guêpe. Un autre exemple qui est intéressant, c'est celle qui est créée par un ver qui existe dans le sud de la France, qui doit absolument passer d'un milieu terrestre à un milieu aquatique pour pouvoir se reproduire.
Et comment il arrive à faire ça?
Ah ben ça, c'est incroyable. Vous allez voir, moi, j'étais complètement fascinée quand je lisais ça. Alors, le ver, il se laisse avaler donc par un grillon. Il se développe, il grandit dans son corps tranquillement, jusqu'à occuper la majeure partie. Et à ce moment-là, il conditionne, c'est le mot important, hein, il conditionne son hôte à se précipiter dans le milieu aquatique. Le grillon, c'est définitivement un insecte terrestre, mais il ne peut pas résister à ce conditionnement. Et il se jette à l'eau et il meurt dans l'eau, évidemment. Et là, c'est un processus de procréation qui a été appelé par les chercheurs le suicide du grillon, piloté par le ver. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de toutes ces manipulations? C'est qu'en général, le parasitisme peut se concevoir comme une course évolutive menée par des espèces partenaires. Là, on a donc deux partenaires, le parasite qui doit trouver un hôte pour se reproduire et transmettre ses gènes, d'une part. Hein. Donc, la sélection naturelle va favoriser parmi ces derniers ceux qui lui donneront la possibilité de pénétrer dans ce partenaire et de manipuler son comportement. D'un autre côté, on a l'hôte qui, lui, lutte constamment pour être moins vulnérable ou pour échapper aux effets du parasitisme. Donc, les gènes, là aussi, seront sélectionnés au cours de l'évolution de cette espèce et ce seront ceux qui permettront le mieux de résister à l'envahisseur qui vont survivre. Donc, c'est ainsi que se construit comme une course aux armements. C'est un petit peu ça. L'un qui essaye de pénétrer dans l'autre et l'autre qui essaye d'éviter de se faire parasiter.
Ouais, c'est assez exceptionnel comme phénomène.
C'est assez incroyable.
Un phénomène de nature.
C'est quand même incroyable. Naturel. Mais il y en a d'autres aussi, savez-vous, parce que par exemple, on cite notamment le parasite la malaria. La malaria, elle est transmise par une piqûre de guêpe. Il y a le moustique, qui est comme l'intermédiaire entre le parasite et l'homme.
L'anophèle.
L'anophèle, voilà, c'est ça. Et il y a aussi la maladie du sommeil, qui, elle, est transmise par la mouche tsetse. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait un intermédiaire entre les deux. Mais alors là, la fin de l'article, ça fait rêver un petit peu, parce qu'on dit, imaginez que nous arrivions un jour à orienter leur évolution de façon à nous servir d'eux pour nous protéger. Ça serait comme le summum de la stratégie. Manipuler les manipulateurs. On pourrait peut-être essayer de transmettre ça aussi aux humains.
Voilà.
Voilà. Donc, c'était cet article de Québec Science par Jean-Pierre Rogel.
Ça nous fait rêver d'été indien. On en est loin. Hein?
pour meubler nos insomnies.
L'hiver indien actuellement. Oui, pour meubler nos insomnies. Alors, pour en finir avec l'insomnie, c'est un texte d'Olivier Ménard. Olivier Ménard, qui est un médecin. Et c'est tiré de Géoplanaire de janvier-février 2015, bien sûr. Peut-être que vous saviez ou vous ne saviez pas qu'on passe près du tiers de notre vie au lit. C'est beaucoup, hein? 75 ans, on a passé 25 ans au lit.
Ouais.
C'est considérable. Hein? Et je pense qu'il est essentiel d'en tirer les effets bénéfiques. Le sommeil fait partie intégrante de notre processus d'apprentissage et de mémorisation. Et en plus de recharger nos batteries physiques. Et en quelque sorte, c'est la remise à zéro de notre ordinateur
personnel.
Interne. Oui, le système immunitaire en profite aussi. Et dormir, ça contribue à la croissance des enfants.
Oui, oui.
C'est assez extraordinaire.
C'est pour ça qu'ils ont des longues périodes de sommeil, oui, hein, les bébés.
Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité aussi rend vulnérable à la dépression, à l'obésité aussi, en modulant le taux de sécrétion d'hormones de l'appétit et de la satiété. La privation de sommeil, quant à elle, mène progressivement au mauvais fonctionnement de la pensée, ralentissement du raisonnement aussi. En plus de rendre irritable, ça accroît les risques d'accident. Et l'absence complète de sommeil durant une longue période peut conduire à des convulsions, à la psychose. Et même un manque sévère de sommeil peut conduire au décès, et conduit au sommeil, au décès plutôt. La plupart des mammifères en moins de 14 jours, y compris l'être humain.
Mm-hmm. Attendez, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis un peu insomniaque moi-même.
Alors, ce
si
médecin...
Si vous pouvez me dire ce qu'on peut faire, oui, pour améliorer la qualité de notre sommeil, je vous écoute attentivement.
Ce médecin, ça a l'air de vous intéresser particulièrement.
Oui, particulièrement.
Ben moi aussi, d'ailleurs. Alors, c'est le médecin qui nous répond à cet effet-là. Il nous propose toutes sortes de choses. Il nous dit un lever matinal, c'est une bonne prémisse à retrouver le sommeil pour la prochaine nuit. Éviter les grasses matinées. C'est de continuer jusqu'à 11 heures.
Oui,
je connais pas ça, les grasses matinées. Et le meilleur somnifère, nous dit-il, c'est le sommeil. Voilà. Et préconiser des activités relaxantes avant d'aller au lit. Se coucher au moment où on se sent vraiment fatigué. Et il faut reconnaître les situations qui nous créent de l'anxiété et apprendre à les maîtriser.
Ouais.
Bon, ça, c'est le secret.
Ouais.
Et il nous dit les écrans et la chambre à coucher sont ennemis. Donc, bannissez de votre chambre
les écrans,
vidéos, télé, etc.
Les siestes au milieu de la journée, qu'est-ce que ça donne, là?
Insomnie de la journée?
La sieste au milieu
de la journée. La sieste au milieu de la journée, c'est très bien, excellent, en autant que ça ne dure pas trop longtemps. En longtemps que ça ne devrait pas dépasser 20 à 30 minutes. Autrement, on empiète sur le sommeil du soir.
Mm-hmm.
Et il nous dit, réservez votre chambre à coucher particulièrement pour dormir. Bon, ça peut servir à autre chose aussi, quand même.
Ça peut, ouais, un peu aussi, même, hein. Merci beaucoup
Mais,
de l'autorisation.
Et il nous dit de ne pas rester au lit pour manger, travailler, des choses semblables. Et... Ben, on parle évidemment de ceux qui sont prédisposés à l'insomnie.
Mm-hmm.
Parce qu'il y en a qui vont faire tout ça puis qui vont dormir quand même.
Mm-hmm.
Ils n'ont absolument aucune... Éviter l'alcool au repas du soir. L'alcool, ça assoupit, mais ça a tendance à être moins réparateur. Et si vous ne dormez pas au milieu de la nuit, on nous dit de nous lever et de faire une activité relaxante, comme la lecture, par exemple. Et pas faire d'activités qui sont... qui vont créer... plus d'anxiété. Donc, la lecture, ça peut être favorable.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec les somnifères? Qu'est-ce qu'il en dit?
Les somnifères, bon, évidemment, la plupart des médecins vont dire la même chose. Bannissez les somnifères, les benzodiazépines, les activants, par exemple, ou autres, non. Ça représente un fléau. Et ça, la plupart des médecins vont vous le dire. On peut y avoir recours à certains moments quand ça devient... trop
problématique.
Ou de façon
ça devient problématique. Mais il nous dit que le fléau est plus grand que le bénéfice escompté. Et comme l'alcool, les somnifères ne favorisent pas les phases profondes, qui sont des phases réparatrices du sommeil. Il augmente le risque de chute aussi par la suite, de blessures. Et leurs effets souvent vont dépasser la durée d'une nuit. Et la plupart de ceux-ci vont mettre à risque l'addiction. Donc, c'est-à-dire qu'on doit en prendre de plus en plus jusqu'à un certain moment. Mais vous savez, il y a des gens qui peuvent difficilement vivre sans ça.
Ouais.
Tu sais, les 14 jours d'insomnie, là, vous savez, ça mène à la mort.
Oh.
Absolument, c'est vrai.
Ouais.
Maintenant, décalage horaire.
Ah là là! Alors ça, c'est terrible pour les insomniaques, ça aggrave le processus.
Tout à fait. Alors, certaines personnes estiment qu'il faut une journée d'acclimatation pour chaque heure de décalage horaire. Donc, si vous avez 14 heures, ça peut prendre 14 jours. Dans mon cas, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Mais c'est beaucoup.
L'idéal, ça serait d'avoir 24 heures, alors, comme ça.
Oui. Ben, sachez qu'il est possible de favoriser la synchronisation jour-nuit de son pays en tenant compte de quelques trucs. Et ça, je l'ignorais. Il nous dit, par exemple, si vous voyagez vers l'Est, vous aurez tendance à être fatigué le matin. Là, je n'avais jamais remarqué ce phénomène. Et il nous dit à ce moment-là, levez-vous, tâchez de sortir tôt pour profiter de la lumière extérieure.
Ouais.
Évitez de porter des verres foncés, des lunettes de soleil. Et si, au contraire, vous voyagez vers l'ouest, et ça, c'est tout à fait nouveau dans mon répertoire, vous aurez tendance à avoir sommeil précocement en soirée et à vous réveiller de très bonne heure. Et il nous dit, dans ce cas, ben, restez actif, exposez-vous au soleil le plus longtemps possible en après-midi et en début de soirée. Donc, ce sont quelques conseils qui nous étaient donnés par un médecin qui s'appelle Olivier Ménard et c'était retransmis dans Géoplanair de janvier-février.
Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux.
Veux-tu le redire?
Paroles, des chansons, celles qu'on chantait à deux. Le chemin de ta maison commence maquille les yeux. La fête de tes enfants. N'oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux. Je les rattraperai au vent. Je te raconterai si tu veux. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom.
Alors, nous écoutions Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre, qui est porte-parole pour le mois d'Alzheimer, qui était le janvier, le mois dernier. Alors, pour faire un lien, donc, je vous présente quelques extraits d'un dossier sur l'Alzheimer et la musique qui a été écrit par Alexandre Vigneault et publié dans la Presse Plus le 31 janvier 2015 dernier. L'auteur nous présente d'abord M. Joseph, dont le nom a été changé. Avant qu'il soit atteint de la maladie d'Alzheimer, la musique occupait déjà une place importante dans la vie de M. Joseph. L'homme, âgé aujourd'hui de 65 ans, jouait du piano et chantait. Il fredonne encore tous les matins en arrivant au centre de jour de la Société d'Alzheimer de Laval. M. Joseph ne communique presque plus. Il peut rester plusieurs heures à somnoler dans son fauteuil, nous dit-on, sauf s'il écoute de la musique. Pas n'importe laquelle, mais des chansons qui ont compté pour lui. Tout le monde sait par expérience que la musique peut réveiller des souvenirs enfouis. Il suffit parfois d'entendre ou même d'imaginer une chanson que l'on connaît bien pour se rappeler une scène vieille de plusieurs années. Oliver Sack affirmait en 2009 que la mémoire musicale semble l'accès le plus direct à notre moi profond. Il le constatait avec les malades atteints d'Alzheimer. C'est ce qu'affirmait le neurologue dans le magazine français Télérama 1. Ils sont capables, quand ils ont tout oublié, de retrouver des chansons populaires et les émotions et souvenirs qui leur sont associés, disait-il. Dan Cohen, dont on va parler au cours de l'article, a été tellement intrigué de l'apprendre qu'il a commencé à tester une idée toute simple. Offrir à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence un iPod contenant un répertoire musical personnalisé, c'est-à-dire rempli de chansons qui avaient une résonance intime pour chacun d'eux. Son but, transformer les soins. Et c'est là que ça devient intéressant. L'initiative de cet Américain, autrefois formateur en nouvelles technologies, est en train de transformer les soins offerts aux personnes atteintes d'Alzheimer. M. Cohen a même mis sur pied sa propre organisation à but non lucratif, Music and Memory, pour promouvoir cette approche, d'ailleurs vantée dans le documentaire Alive Inside, qui est un documentaire qui est offert sur Netflix et qui a été présenté la semaine dernière, le 3 février dernier à l'UQAM. Peu connu au Québec ou seulement de manière intuitive, comme à Laval, la méthode Music and Memory a été adoptée par des centaines de centres de soins aux États-Unis et au Canada. La coordonnatrice du programme de la Société d'Alzheimer de Toronto, Mme McCurbin, explique que l'approche a été retenue chez eux en raison de son accessibilité. Ça correspond à leur mission, qui est d'aider les gens à vivre mieux. La plupart du temps, ce sont les proches qui guident les intervenants dans le choix des chansons. Et dans le meilleur des cas, la musique redonne aux gens une présence d'esprit qui leur permet de communiquer. L'initiative Music and Memory est particulièrement répandue à la Société d'Alzheimer de Toronto. Or, son implantation n'a pas été facile. C'est une approche très différente. Pour la mettre en place, il a fallu établir des protocoles et tenir compte de la charge de travail qu'avait déjà le personnel des centres de soins. Et dans son dossier, Alexandre Vigneault pose aussi la question, est-ce que moins on arriverait à moins de médicaments grâce aux mélodies? Alors, on parlait de Dan Cohen tantôt, qui a fondé l'organisme Music and Memory pour favoriser la stimulation cognitive des personnes atteintes de démence, dont la maladie d'Alzheimer, et contribuer à les tirer de leur isolement. Presque 10 ans plus tard, il croit, lui, que la musique peut avoir un autre effet important, soit réduire la quantité de médicaments que consomment ces personnes vulnérables. Selon lui, aux États-Unis, 20% des patients des centres de soins, soit 6 millions d'Américains, sont sous l'effet d'antipsychotiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les troubles de comportement que peut causer la maladie d'Alzheimer. Au Québec aussi, on utilise les antipsychotiques, qu'on appelle aussi neuroleptiques, et on utilise aussi les antidépresseurs pour les troubles de l'humeur liés à la maladie. Au Wisconsin, l'essai du programme Music and Memory visait 2 objectifs. Le premier, se préparer à l'inévitable augmentation des cas d'Alzheimer en raison du vieillissement de la population, et le second, participer au mouvement national de réduction de la médication des personnes atteintes. Grâce à un système de statistiques déjà en place, En juin 2014, soit quelques mois seulement après l'implantation du programme, l'utilisation des médicaments était déjà en baisse. L'État du Midwest poursuivra ses investigations en partenariat avec l'Université du Wisconsin-Milwaukee. Et on confirme qu'on va étendre ce programme dans tous les centres de soins de l'État. Chez nous, les médecins réservent leur jugement quant à l'impact de cette intervention sur l'utilisation d'antipsychotiques. Entre autres, le Dr Gauthier, qui est directeur de l'unité de recherche de la maladie d'Alzheimer à McGill, précise qu'il ne connaît pas d'études spécifiques sur le sujet, mais croit, lui, que cette approche peut très bien s'intégrer à une approche non pharmacologique. Lise Lalande, la directrice générale de la Société d'Alzheimer de Laval, assure, elle, c'est certain que c'est un programme qu'on veut développer. L'intérêt est aussi grand à la Fédération des sociétés d'Alzheimer du Québec, qui souhaite étendre l'implantation des interventions de musique personnalisée.
Tu mentionnais, Marie, que ça peut être une charge pour le personnel. Oui, oui, mais la famille devrait... Parce que c'est la famille qui connaît, dans le fond, l'intérêt. Oui, mais il faut que la famille soit présente. Et un des problèmes majeurs, je sais pour l'avoir vécu, c'est que la famille ne se présente pas souvent. Ils ne sont pas là.
C'est
extrêmement malheureux.
C'est pas toujours le cas. Je peux vous en dire, si vous voulez.
Alors, je rappelle que c'était un dossier sur l'Alzheimer et la musique d'Alexandre Vigneault dans la presse plus du 31 janvier dernier.
Merci, Marie.
Il y a un pêcheur de la baie qui a eu toute une surprise le week-end dernier lorsqu'il a sorti un aiguilla commun des eaux du Saguenay. L'aiguilla commun, c'est un requin. C'est un spécimen qui est issu de la famille des requins qui n'avait jamais été aperçu dans le fjord jusqu'à maintenant. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 7 espèces de requins qui sont dans le fjord du Saguenay. Hein. Souvent, on l'ignore. Mais c'était une découverte assez particulière. Il a juste eu le temps de prendre une photo parce qu'évidemment, il faut qu'il le remette à l'eau.
Allô.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors encore une arme. c'était plus la manipulation. C'est une nouvelle arme dans la sempiternelle lutte du Québec contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette.
L'épinette contre-attaque.
Voilà, exactement. Alors écoutez, pour situer le texte, alors c'était également un article que j'ai tiré de Québec Science, les découvertes de l'année du numéro janvier-février 2015. Et je vais vous mettre un petit peu en situation pour que vous imaginiez ça. Alors, vous imaginez que nous sommes en avion, en hélicoptère. On survole, on est près de Drummondville, quelques centaines de mètres au nord de l'autoroute 20. Et on voit une très belle plantation d'épinettes blanches. Elles ont toutes été mises en terre en 1963. Et ça couvre à peu près 50 hectares. Le problème, c'est qu'on voit aussi des trous. Parce que les tordeuses des bourgeons de l'épinette sont sur place et profitent du buffet, n'est-ce pas? Alors, on va parler un petit peu d'abord de la tordeuse, cette fameuse tordeuse. A priori, c'est un tout petit papillon de nuit tout à fait inoffensif. Par contre, ce qui cause tous les problèmes, c'est le stade larvaire du papillon. Parce que dans la première moitié de l'été, les chenilles se gavent des bourgeons et des aiguilles des épinettes, et aussi celles des sapins d'ailleurs, hein? Et il y a des travaux en paléontologie qui démontrent que l'insecte faisait déjà des ravages en Amérique du Nord il y a plus de 1000 ans.
Oh.
Imaginez-vous qu'on a trouvé la solution pour la contrer maintenant. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, les épidémies, elles semblent être cycliques, mais leur rythme s'est accéléré, comme beaucoup de choses, depuis les deux derniers siècles. Ce qui se passe, c'est que l'arbre... Il est privé de ses aiguilles, puisque les tordeuses l'ont mangé. Il finit par mourir et le bois se déprécie rapidement. S'il n'est pas recueilli très vite. Ce qu'ils disent, c'est que dans l'épidémie des années 70 à 90, 200 millions de mètres cubes ont été détruits. Et l'infestation actuelle a commencé par une zone de 3000 hectares en 2006. En 2013, quand même très près de chez nous, 3,2 millions d'hectares de forêts qui avaient été modérément ou gravement atteints par le ravageur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est de retour. Elle a d'abord été repérée au nord du Saint-Laurent. Et la surface forestière envahit maintenant le double chaque année et touche même la Gaspésie. La dernière épidémie, 70-90, perte 3 milliards de dollars. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans cette petite plantation dont je vous parlais au début, qu'on observait, on s'aperçoit qu'il y a d'irréductibles épinettes qui conservent leurs aiguilles face à l'envahisseur. Et parmi les arbres morts ou atteints, on voit des individus sains que les tordeuses semblent ne pas accepter, ne pas attaquer.
Oui, oui, c'est étonnant ça.
Oui, c'est assez étonnant. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'en 2010, une étude avait déjà démontré que les aiguilles des épinettes résistantes, parce qu'il y en avait des résistantes, puis il y en avait qui étaient attaquées. On ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi, comment. Mais ce qui avait été constaté en 2010, c'est que donc on avait constaté que certaines aiguilles d'épinettes résistantes présentaient des composés particuliers qui s'appellent des composés phénoliques, avec les doux noms de picéol et pungénol. Mais retenez ces deux composés, parce qu'ils sont importants dans la suite de l'histoire et de la guerre. D'autre part, les chercheurs avaient noté que le taux de survie des larves des tordeuses chutait lorsque ces deux composés au nom très lyrique étaient ajoutés à leur alimentation.
J'imagine que les chercheurs ont voulu savoir, ont voulu connaître le mécanisme qui était
la résistance. Ils soupçonnaient qu'en fait, s'ils arrivaient à comprendre ce qui se passait, ils allaient résoudre le problème et trouver l'arme en question. Alors pour ce faire, ils ont pris les grands moyens parce qu'ils ont étudié l'expression de 24 000 gènes. Figurez-vous, la première fois, je pensais que j'avais mal lu, je pensais que c'était 2400. 24 000 gènes chez 7 arbres résistants et 7 arbres non résistants. Il y a un de ces gènes qui les a intrigués particulièrement parce qu'il sert à produire une enzyme qui permet de fabriquer ces deux substances au nom particulier.
Le picéol et le pungénol.
Picéol et pungénol.
On a retenu, évidemment.
Mais c'est important parce que.
Couple,
Mais qui sont importants parce que ces deux éléments, donc au nom très lyrique, sont produits par tous les arbres, mais sont produits par certains arbres à des degrés variables. C'est ça qui fait différent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont constaté que la résistance donc aux larves est héréditaire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait germer des graines qui provenaient des individus résistants. Et les petites épinettes obtenues ont une production élevée de l'enzyme en question. Et vous voyez que cette découverte est importante parce que depuis 1000 ans, donc, on se bat contre cette tordeuse. Mais maintenant, elle va fournir une nouvelle arme dans la lutte du Québec contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et les chercheurs, évidemment, travaillent étroitement avec le ministère des Forêts, de la Faune, des Parcs pour repérer d'une part et sélectionner d'autre part les plus résistants qui vont servir de base au reboisement et réduire de beaucoup les conséquences écologiques et économiques.
J'ai parlé récemment de la grille du frêne
qui détruit
nos arbres ici à Montréal particulièrement.
Faudrait mettre ces chercheurs sur le coup.
Exactement, oui.
J'imagine qu'ils doivent déjà être sur le coup.
Oui.
Merci. Thank you.
Alors, je vous parle particulièrement du rhinocéros et du tigre, le massacre des rhinocéros qui prend des proportions alarmantes. Et c'est Jean Liu qui nous en parle dans Le Devoir. C'est tiré de l'Agence France-Presse actuellement, du 23 janvier. Le nombre de rhinocéros qui est braconné particulièrement en Afrique du Sud a battu un nouveau record qui est un peu enviable, hein, avec 1215 animaux tués en 2014. Et les autorités s'avouent désarmées face à une criminalité qui est organisée à l'échelle mondiale. Alors, ces pachydermes sont la cible des braconniers depuis plusieurs années, à cause de leur corne, évidemment, qui est composée de kératine, qui est la même chose que les ongles humains. Donc, ça n'a aucune particularité.
Sauf que pour eux, elle est aphrodisiaque.
Ben oui, c'est ça. Sauf qu'on y trouve des vertus particulièrement en Asie et surtout au Vietnam, en Chine aussi, bien sûr. Et ils sont vendus à prix d'or. Hein. Je n'ai pas ici les prix, mais je l'avais mentionné déjà. C'est absolument incroyable. Et c'est réduit en poudre pour entrer dans la composition de remèdes traditionnels.
Je peux vous dire, Michel, que ça coûte plus cher que le platine.
Oui, malheureusement, je n'ai pas
les incroyable.
Le prix était extravagant. Et c'est vraiment inquiétant. C'est le ministère de l'Environnement qui l'a reconnu. Alors, ce massacre prend des proportions alarmantes. 1215, comme j'ai dit, en 2014. Et l'année précédente, c'était presque autant. Et on approche du moment où la mortalité va être supérieure aux naissances parmi les 2000 rhinocéros sud-africains qui restent. Et qui constitue 80 % de la population mondiale. D'autant que des spécialistes estiment que des chiffres et des autorités sous-estiment la réalité. C'est pire que ça. Les chiffres sont bien plus élevés. Mais 1215, c'est déjà énorme. Hein? Et sans parler du sort des petits...
Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on tue les parents,
leur chance de survie est à peu près nulle. Si la mère meurt, les autres ne vont pas l'adopter.
Non?
Absolument pas. Alors maintenant, la façon de procéder des braconniers, ça s'est raffiné. Ils utilisent maintenant des anesthésiens parce que c'est plus discret que des armes à feu qu'on utilisait au préalable. Puis, ils décornent à la hache ou à la tronçonneuse. Donc, c'est épouvantable. L'animal se réveille et meurt d'une agonie épouvantable. Yeah. Et ça fait partie d'un commerce illégal d'animaux sauvages qui représente plusieurs milliards de dollars, en fait. Et les tueries à cette échelle, ça montre que le braconnage des rhinocéros est de plus en plus le fait du syndicat du crime organisé.
Ouais.
Assez incroyable, hein? Ouais. Et 70 000 euros le kilo, comme dit pour la corne de rhinocéros. 70 000 euros le kilo, vous imaginez?
Ouais.
Et c'est effarant.
C'est plus intéressant que la cocaïne ou la drogue.
C'est ça. Alors, les rangers du pays, je parlais de l'Afrique du Sud en particulier, ils font tout ce qu'ils peuvent sur le terrain pour protéger les rhinocéros.
Mais ils sont eux-mêmes mis en danger, les rangers.
Absolument,
hein.
C'est ça, tout à fait. Alors, l'Afrique du Sud doit faire davantage d'efforts pour enrayer le trafic des animaux sauvages. Et le Vietnam, en particulier, doit prendre des mesures urgentes pour empêcher l'utilisation illégale des produits qui sont issus de ces animaux. Il y a un organisme, organisation plutôt, qui s'appelle Trafic, qui s'étonne que Pretoria ait snobé la conférence qui visait à mettre fin au commerce illégal. Et le manque de volonté politique et de leadership actif du gouvernement du Mozambique, entre autres, des principaux pays asiatiques, ça reste un obstacle pour résoudre cette crise. L'armée sud-africaine est venue renforcer les rangers dans le parc national de Kruger, qui est le parc le plus important en Afrique du Sud, où vivent quelque 9000 rhinocéros. Pretoria aimerait légaliser le commerce de la corne de rhinocéros, estimant qu'il serait plus simple de fournir à la demande, car les cornes repoussent, comme les ongles. Absolument. Et ce que j'ai vu, ce qu'on fait maintenant, c'est que les rangers vont eux-mêmes couper la corne du rhinocéros, mais de façon à ce qu'elle puisse repousser.
Okay. Ah oui,
parce que les autres, les braconniers vont la chercher à la base.
Comme on couperait les ongles.
Y compris le bout du doigt. C'est ça. Ouais. Et on passe à un autre animal qui est en danger, le tigre. Et la Russie a entrepris le 26 juin de recenser sa population de tigres sauvages. Ça va permettre de savoir comment se portent les 400 tigres de Sibérie que comptait le pays il y a 10 ans. Mais il n'y a pas eu de recensement depuis ce temps-là. C'est l'un des 13 États qui participe depuis 2008 à l'initiative mondiale pour le tigre. Et les résultats, on nous dit, sont encourageants.
Est-ce qu'on en trouve dans d'autres pays?
On en trouve particulièrement en Inde. Ça, l'Inde abrite la moitié des tigres sauvages de la planète. Oui, exactement. Et la semaine dernière, le gouvernement indien a fait savoir que selon le plus récent dénombrement, la population de tigres du Bengale, justement, est en forte hausse. Et ce qui est particulièrement intéressant, il a fini des décennies pour que les pays concernés interdisent la chasse, qui était épouvantable. J'ai vu des photos des maharajas à dos d'éléphants avec des dizaines de tigres.
Qui étaient...
Et la croissance accélérée des pays d'Asie a mené à la destruction d'une grande partie des habitats du carnassier. Et lorsqu'ils ne trouvent pas de proie, ben les tigres vont s'aventurer dans des zones rurales où ils vont s'attaquer au bétail et parfois aux humains. Et bien, ceux des fermiers disent que c'est une nuisance. Et il y a un Américain qui s'appelle Robert Zoellick, qui est président de la Banque mondiale, qui est à l'origine de l'initiative mondiale pour le tigre. Et il a trouvé un partenaire intéressant avec Vladimir Poutine. Et les participants sont fixés de doubler, pour l'objectif, de doubler la population de tigres sauvages d'ici 2022. Mais le défi est colossal, surtout dans les pays dont les moyens financiers sont évidemment limités. Le gouvernement indien a créé 47 parcs réservés aux tigres et plusieurs mesures ont été prises afin de limiter des contacts entre les tigres et les humains. Et la première politique de protection du tigre a été lancée en 1973, et je vous donne en mille par qui, c'était par la première ministre Indira Gandhi. Et après la mort de Mme Gandhi, qui a fait un effort important, donc Mme Gandhi qui est morte en 1984, les 15 réserves qui avaient été aménagées ont été malheureusement laissées à l'abandon. Bien, évidemment, vous savez ce qui est arrivé, hein? Ouais. Les braconniers se sont donnés à cœur joie. Et la morale est claire, pour sauver les tigres, il ne faut pas seulement des moyens financiers, scientifiques et policiers considérables. Il faut une intervention nationale, internationale et une politique durable, une volonté, tout à fait, sans quoi c'est la désolation. Cet article-ci, c'était de André Pratt dans la presse du 25 janvier.
Mais mauvais, ma fâche.
Alors, nous écoutions Paradis artificiel de Alpha Rococo. Alors, je vous présente maintenant un texte écrit par Marie-Claude Lortie dans la section Pause-repas de la presse plus du 5 février 2015, dont le titre est « L'intelligence artificielle dans notre assiette ».
Ça nous excite, ça.
Plusieurs grands penseurs, on pense à Bill Gates notamment, ont manifesté récemment leurs inquiétudes face à la croissance exponentielle que prend la place de l'intelligence artificielle dans nos vies. C'est à eux que Marie-Claude Lortie a pensé récemment en écoutant parler des gens d'IBM venus au World Cuisine Summit dans le cadre du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, le CIRA, immense événement qui se tient tous les deux ans à Lyon. Ils étaient là pour parler du rôle que pourrait jouer un logiciel de pointe dans la mise au point de nouvelles recettes, de nouvelles combinaisons alimentaires, de nouvelles créativités culinaires. En gros, la prémisse ou l'idée de départ d'IBM est la suivante. Le cerveau humain ne peut pas réfléchir assez efficacement, de façon réaliste, pour imaginer toutes les combinaisons de saveurs possibles avec tous les ingrédients qu'il connaît. Avec un logiciel pour l'aider, il peut aller beaucoup plus loin et explorer des accords de parfums et de goûts qui ne lui ont jamais effleuré l'esprit. En gros, le système fonctionne à partir de saveurs codifiées, identifiées par leurs molécules, que l'on combine de façon classique ou inusitée en tenant compte ou pas du bagage, de la culture, de l'histoire, des us et coutumes ou des origines.
Oui, ça doit être important, ça, à considérer, effectivement.
Tout à fait. Mais cette nouvelle créativité culinaire assistée par ordinateur, il n'y a pas que ça. IBM travaille aussi, pour ne pas dire plutôt, pour la grande industrie, pour les producteurs agroalimentaires qui cherchent à créer de nouveaux produits, pour les services alimentaires desservant d'immenses quantités de personnes, que ce soit dans les écoles, dans les grandes entreprises ou les hôpitaux. C'est là que la technologie, disent-ils, devient vraiment intéressante. Parce que, au-delà du jeu des saveurs qui s'agence ou pas, on peut faire entrer toutes sortes d'autres données, notamment la valeur nutritive des ingrédients, leur prix, leur longévité. Ce qu'IBM dit, c'est que les logiciels de créativité peuvent aider l'humain à être plus efficace dans sa gestion de la nourriture. Madame Deliris d'IBM explique que environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture ne sont pas consommées chaque année dans le monde. C'est impressionnant comme nombre.
Oui, quand on pense au nombre de gens qui ont faim.
Oui, tout à fait. Les ordinateurs essaient de nous aider à moins gaspiller. On dit aussi que... Une autre personne qui va dans le même sens, c'est la clé pour une meilleure utilisation de ce qui est disponible. Les ordinateurs seraient-ils maintenant les mieux placés pour nous aider à nourrir la planète sans épuiser ses ressources au point de la détruire? Alors, ils répondent, les gens d'IBM, les gens croient que la cuisine est d'abord et avant tout un art, mais en fait, en dessous, il y a beaucoup de facteurs scientifiques. Donc, selon cette personne, il y a moyen de gérer une bonne partie des équations alimentaires avec l'aide de l'intelligence artificielle. Évidemment, on aimerait tous avoir un petit robot bien programmé dans notre cuisine,
n'est-ce pas?
Capable de nous dire d'entrée de jeu, en revenant du bureau, quel genre de repas on peut préparer avec les 3 bouts de carottes dans le fond du frigo, la demi-douzaine d'œufs, la moutarde, les nouilles asiatiques dans le garde-manger, les sardines en conserve. Mais il y a aussi quelque chose de difficile à croire dans l'idée qu'un ordinateur puisse avoir la moindre idée de ce qui est vraiment bon et de ce que notre famille aime. Il n'y a qu'un ordinateur, dit Marie-Claude Lortie, qui sache quelle quantité de nourriture on a besoin de manger. En fait, ce n'est pas vraiment un ordinateur, c'est plutôt notre cerveau. Cette incroyable machine organique qui est branchée sur nos hormones, notre foie, notre estomac, nos glandes et quoi encore, qui analyse notre sang, nos électrolytes et nos taux de glucides et qui écoute, d'une manière ou d'une autre, nos cellules, nos muscles et tout notre corps lui dire s'il a besoin ou pas de plus de nourriture ou s'il en a eu assez pour le moment. C'est ce cerveau aussi qui se rappelle les goûts de notre enfance, les saveurs d'un lieu, d'un voyage. Qu'un ordinateur aide les gestionnaires de services alimentaires à ne pas gaspiller de nourriture parce que leur imagination ne leur permet pas de penser tout seul à la meilleure façon d'utiliser tel ou tel ingrédient, on peut aisément l'imaginer. Et on l'applaudit. Il faut effectivement rationaliser notre consommation alimentaire car le gaspillage est un réel fléau. Mais, un peu comme Bill Gates et Hawking, Marie-Claude Lortie s'inquiète de notre dépendance au logiciel et elle se demande si ce n'est pas plutôt notre cerveau, nos connaissances alimentaires, notre relation avec notre corps et nos besoins nutritionnels qu'il faut chercher à éveiller plutôt que de tout confier à des machines.
Tu sais, Marie, il y a quelque chose...
On a encore droit à quelque chose.
Oui.
Il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est qu'on parle de plus en plus de cuisine, de livres de cuisine, de recettes, d'émissions culinaires. Et il y a de plus en plus de gens qui mangent au restaurant ou qui achètent des plats préparés.
Oui, tout à fait. Il y a encore un paradoxe ici.
Un peu, oui.
À Montréal, c'est un peu étonnant.
Un restaurant pour 400 personnes.
Oui.
Fou, hein?
Alors donc, je rappelle, c'était un article de Marie-Claude Lortie, publié la semaine dernière, le 5 février, dans la section Pause-repas de la Presse Plus.
Oui, pour compléter ce dont je parlais précédemment sur l'insomnie, on se demande combien d'heures faut-il dormir. Bon, il y a un groupe de scientifiques formés de spécialistes du sommeil, l'anatomie, de la physiologie, de la pédiatrie, de la neurologie, toutes les choses enragées, là, et qui ont fait des recherches là-dessus. Ils ont pris 2 ans pour arriver aux conclusions suivantes. C'est assez simple. Ben, le nouveau-né, c'est 14 à 17 heures. Par la suite, 12 à 15 heures. Ce qui m'a étonné un peu, c'est les enfants d'âge préscolaire. C'est 10 à 13 heures.
Mm-hmm.
Et les enfants, ensuite de ça, d'âge scolaire, 9 à 11 heures. Je ne suis pas sûr, moi, qu'ils ont tendance à faire ça maintenant. Les adolescents, 8 à 10 heures. L'affaire, c'est qu'ils prennent toute la fin de semaine.
Ouais, exactement. Là,
ordinairement, c'est ça qui arrive. Et par la suite, c'est pour les gens de 18 à 25 ans. Et ce qui m'a étonné, même 65 ans et plus, c'est 7 à 9 heures. Alors que j'ai une certaine contradiction là-dedans, ouais. Parce que je lisais, moi, que plus tu vieillissais, moins tu avais besoin de sommeil.
Ouais.
Selon leur recherche à eux, c'est pas le cas.
Bon.
7 à 9 heures. Oh, que je rêverais d'avoir
7
à 9 heures. Ça serait merveilleux.
Moi aussi. Alors, je voulais compléter sur ce dont nous parlait Michel tout à l'heure. C'est ça concerne la panthère de Perse. Elle serait, tenez-vous bien, sauvée par les mines. Parce qu'elle est réfugiée dans les monts Zagros, à la frontière irano-irakienne, et elle profite de la présence de 20 à 30 millions de mines posées durant la guerre Iran-Irak, qui tiennent les braconniers à distance. La panthère, elle est trop légère pour déclencher des explosions. Alors évidemment, les militants de Nature Irak se demandent s'il ne faudrait pas cesser le déminage de la région pour sauver l'espèce. D'un autre côté, les mines tuent quand même des dizaines de personnes chaque année de part et d'autre de la frontière. En ce qui concerne les décisions du gouvernement régional du Kurdistan, il n'en est pas question parce qu'il entend exploiter les richesses de son sous-sol et donc les opérations de déminage dans l'habitat de la panthère de Perse sont presque toutes financées par des sociétés pétrolières et gazières. Il reste environ 1000 panthères dans le monde. Voilà.
Eh bien, c'est peu.
Voilà.
1000 panthères dans le monde, quand même. Alors, bien, on vous remercie d'avoir été présents. Je remercie André, Marie d'avoir été avec nous.
Merci,
j'espère
Michel.
Que nos sujets vous ont plu. Mise en onde des choix musicaux, on remercie Rémi Hermoso, notre site canalm.org. Écrivez-nous, envoyez-nous des commentaires, des choses que vous avez aimées. Ça nous fera toujours plaisir.
Besoins.
Ben oui, qu'est-ce que vous aimerez? On est en reprise à 13h et 21h. Bonne journée.